je t'aime, c'est vrai, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh oui, je t'aimerai toujours.
Amen, amen. Seigneur notre Dieu, veuille bénir ces instants que nous passons devant toi, dans la louange, mais aussi dans l'écoute de ta parole, dans l'adoration. Merci pour ce culte que nous voulons te rendre ce matin. Veuille permettre que chacun puisse bien comprendre ce que je vais dire et ne l'interprète pas d'une fausse manière. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, tout le monde va bien par ce beau dimanche ensoleillé. Eh bien tant mieux, moi aussi. Alors, quelque chose d'important à vous dire ce matin. On va faire deux lectures. Premièrement, dans le psaume 73, versets 1 à 6. Psaume 73, 1 à 6. Oui, mon Dieu, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes, etc., etc., etc. C'est David qui se plaint, n'est-ce pas ? Et des fois, ben c'est vrai que, voilà, c'est bizarre. Vous pouvez vous asseoir, ou alors je vais continuer à faire une lecture dans le livre de Doctrine et Alliance, au chapitre, dans la section 13, verset 1. C'est Moïse qui parle, qui dit « À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile du repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés, et cela ne sera plus enlevé de la terre jusqu'à ce que les fils de Lévi fassent de nouveau une offrande au Seigneur selon la justice. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. La prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange. Vous savez, quand vous avez une voiture, ça peut être la plus belle voiture du monde. Si vous arrivez devant votre voiture hyper puissante, mais que vous n'avez pas les clés, ben elle ne marche pas. Les anges existent, mais si vous n'avez pas les clés du ministère d'anges, eh bien, vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. Et pourtant, vous y avez droit. C'est vrai, c'est comme ça. Quand on est dans la souffrance, il peut arriver qu'on ne comprenne plus les desseins de Dieu. Et on ne voit pas de justice dans ce que Dieu fait. Plusieurs dans la Bible ont crié à ce sujet. Ils ont crié à Dieu. Ils ont dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que les méchants réussissent comme ça? Et puis moi qui te sers, tu me laisses tomber. On dirait, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Il arrive dans la souffrance que les anges ne viennent plus parce que nous servons plus des clés du ministère d'anges. Et nous nous comportons en fait comme des gens ordinaires, des plaignants, des gens qui rampent, qui sont... C'est la souffrance qui fait faire ça. Et les gens ordinaires sont faibles dans la souffrance. Et si nous nous laissons glisser dans cet état-là de souffrance, eh bien nous devenons faibles. J'ai connu cette faiblesse. Je sais de quoi je parle et il m'a semblé que Dieu me laissait me débrouiller par mes propres moyens. Et c'est des sales moments. Pourtant, j'avais souvent enseigné que toutes les batailles servaient à quelque chose, même celles qu'on perd. Alors, je m'en suis souvenu. J'ai dit, tiens, je vais aller me redonner du courage en réécoutant ces vieilles prédications que j'avais faites au sujet de... Les batailles servent toujours à quelque chose, les épreuves servent toujours à quelque chose. Mais en écoutant ça, je me suis aperçu que ces belles paroles ne me servaient à rien. Ma souffrance était trop grande. La perte de mes amis comme Metz, Marici, tout ça, ça me tuait. C'était une souffrance qui était... Je crois que c'est la pire que j'ai eue J'ai perdu beaucoup d'amis, mais disons, dans cette situation-là, c'était la pire chose. Alors, j'ai repensé à d'autres choses. J'ai dit, ben, je me tournais vers des choses plus négatives encore que ce qui m'arrive. J'ai repensé donc à toutes ces personnes, comme par exemple tous ces couples de Bethléem qui ont vu les soldats romains débarquer, tuer leurs enfants au temps de la naissance de Jésus. Ça ne m'a pas consolé, hein. J'ai tout simplement trouvé ça pas juste du tout. Et j'ai pensé à David, obligé de fuir son palais, d'aller se cacher dans les cavernes. C'est effrayant, lui, l'homme, selon le cœur de Dieu. Mais ça ne m'a pas consolé. Je me suis dit, c'est pas juste, c'est pas. Pourquoi Dieu fait des trucs pareils? Il pourrait très bien faire autrement. Enfin bon. J'ai pensé à Élie, dépressif, à un moment donné de sa vie, demandant la mort, tant sa souffrance était grande, tant il ne comprenait plus les desseins de Dieu. Il ne comprenait plus. Alors j'ai relevé la tête et j'ai décidé que j'allais chercher des solutions plutôt que des réponses. J'ai pas de réponse, les anges ne me parlent plus, Dieu dit rien du tout, les prophètes disent rien. Eh ben, je cherche des réponses, je cherche plus de réponses, je cherche des solutions. Et puis tant pis. J'étais à table avec toute la communauté du sanctuaire et je regardais mon petit-fils Timothy. Et il est extraordinaire ce gamin, il rit pour un rien, il s'amuse avec n'importe quoi, il se réjouit avec des petits riens. Il est presque comme tous les enfants, enfin tous les enfants normaux qui vivent dans un cadre agréable et qui sont heureux. Et j'ai pensé, voilà, moi j'ai l'expérience d'un homme qui a eu beaucoup de victoires, mais aussi beaucoup de défaites dans sa vie. Il faut que je trouve l'équilibre entre ce vieux monsieur que je suis et Timothy qui est rempli de jeunesse et d'énergie. Il faut que je trouve ça. Moi, je suis un vieux affaibli et lui, il est plein d'énergie et il est intelligent, ce gamin. Alors, je me suis dit, bon, il vaut mieux reconstruire la vie sans attendre. J'attends plus. Marre d'attendre. Ras-le-bol d'attendre. Fini d'attendre. Terminé d'attendre. Ça prendra du temps pour que tout redevienne comme avant, mais tant pis. Et à ce moment-là, le ministère d'ange est revenu. Et un ange m'a chuchoté à l'oreille, rien ne sera plus jamais comme avant. Il y a des choses qu'on peut réparer et d'autres non. Alors, Jésus est le grand berger. Et puis, il a fait de moi un berger dans une église locale, une petite église, une petite communauté. Et un berger je parle pas d'un pasteur, mais je parle d'un berger avec ses moutons, ses brebis. Un berger, c'est un homme qui dépend du temps, qui dépend des saisons. Et un berger peut toujours survivre aux événements inévitables. Et il soigne son troupeau, il traite chaque animal comme si c'était un animal unique. Il cherche à aider les mamans et les petits de son troupeau surtout. Il s'éloigne jamais des endroits où il y a de l'eau pour que les bêtes puissent boire. Et cependant, il arrive de temps en temps, parfois, qu'une brebis à laquelle il avait consacré tant d'efforts finit par mourir dans un accident ou à cause d'un loup, parce qu'elle s'est peut-être un petit peu trop éloignée, voilà, ou alors à cause d'une chute dans un précipice. En fait, l'inévitable arrive toujours. Je vous ai parlé l'autre jour sur l'inévitable. Et ça fait peur. Ça fait peur de savoir que n'importe quoi peut arriver et que Dieu ne l'empêchera pas forcément. Regardez ce qui se passe en Syrie avec nos frères chrétiens là-bas. Dieu n'empêche pas. Il pourrait. Il fait pas. Bon, il doit faire des choses avec des gens, bien sûr, mais quand on regarde globalement, on voit des horreurs. Mais c'est des horreurs qui se passent pour ces pauvres gens. À un moment dans ma souffrance, après la perte de mon ami Richie, à un moment, j'ai été ébranlé, j'ai douté de ma tâche. Faut le faire quand même, après tant d'années de bénédiction. Et l'ange du Seigneur m'a fait comprendre que celui qui ne doute pas de lui-même, c'est un être indigne. Parce qu'il a confiance, il a une confiance trop grande dans sa valeur et il pêche par orgueil. Et il m'a dit, béni soit celui qui traverse des moments d'indécision. Vous voyez, le ministère d'ange, c'est important. Mais la peur de l'inévitable, c'est lancinant, c'est hypnotisant. Comme je vous disais il n'y a pas longtemps, il y a l'inévitable et le définitif. Et c'est à nous de savoir distinguer ce qui est passager de ce qui est définitif. Ce qui est passager, c'est l'inévitable. C'est un truc qui arrive, mais c'est passager, ça va passer un jour. Alors que ce qui est définitif, c'est la leçon qu'on tire de ce qui est inévitable, c'est-à-dire des difficultés qu'on rencontre. On a tous des difficultés qu'on rencontre. Mais le définitif, c'est la leçon qu'on en tire et qui nous forme, qui fait de nous la personne digne ou indigne que nous allons être par la suite. L'inévitable, il arrive toujours. Et la peur existe jusqu'au moment où survient l'inévitable. Quand l'inévitable est là, ça ne sert plus à rien du tout d'avoir peur, il est là. Hein? L'inévitable est arrivé, c'est là, bon ben voilà. On n'a plus à... Enfin, pas, ça ne sert à rien de perdre son énergie avec la peur quand l'inévitable est arrivé. Quand l'inévitable est arrivé, ce qu'il faut faire, c'est foncer. Foncer. Mais dans quelle direction ? C'est ça le truc. Dans quelle direction ? Il semblait que Dieu ne voulait pas me le dire. Il semblait que Dieu ne voulait pas me le dire. Alors j'ai compris une chose. Le sens de ma vie, c'est celui que je veux lui donner. Je vous ai toujours prêché ça, c'est que Dieu ne va pas vous demander de faire des choses que vous n'aimez pas. Dieu ne va pas me demander de devenir un champion de ski. Je déteste la montagne, je déteste la neige, je déteste... Vous comprenez ? Vous voyez, mes frères et sœurs ? Il nous a mis des dons, des qualités, et il ne va pas nous demander de faire des choses qui ne sont pas dans la nature qu'il a fait de nous. L'inévitable était arrivé, point. La peur n'avait plus raison d'être, point. Il ne restait que l'espoir de prendre la bonne décision. Vous voyez, trois choses qui demeurent, l'amour, la foi, l'espérance. L'espoir de prendre la bonne décision. Quand Dieu vous dit rien, eh ben, il reste l'espoir de prendre la bonne décision. Mes frères et sœurs, j'espère que mon expérience vécue, j'espère que ça va vous aider, peut-être pas aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas dans les difficultés aujourd'hui, mais peut-être que ça va vous aider un jour, vous allez repenser, j'espère que ça va vous aider. Je pensais vouloir reconstruire. Et l'ange me dit... Rien ne sera plus comme avant. Et ça, c'est vrai pour nous tous, pour chaque être humain. L'inévitable arrive. Alors, il faut de la patience, il faut de la discipline pour surmonter l'inévitable, il faut de l'espoir. Et quand l'espoir n'existe plus, ça ne sert à rien de gâcher notre énergie à lutter contre l'impossible. Ça ne sert à rien. J'ai des amis burkinabés qui vivaient dans une misère telle qu'ils sont partis en Côte d'Ivoire, pensant y gagner mieux leur vie, en pensant ramasser un peu d'argent pour pouvoir rentrer ensuite au pays et vivre décemment. Ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants, ils sont partis vivre là-bas en pensant qu'ils allaient ramasser du pognon. Et au bout de quelques temps, même certains au bout de quelques années, ils sont revenus et ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils sont rentrés les mains, les poches vides. Pourquoi ? J'ai pensé à ça longtemps. On peut s'enrichir en Côte d'Ivoire plus facilement qu'au Burkina, parce que là-bas, il y a la mer, c'est beaucoup plus évolué à cause de cela. J'ai compris qu'ils n'ont pas réussi parce qu'ils avaient emporté avec eux, en plus de leur pauvre petit bagage, le poids de leur échec passé. Leur passé les avait rendus craintifs. Et ils se sont manifestés comme des craintifs. Ils n'avaient pas suffisamment confiance en eux pour oser prendre des risques. Et ils se sont comportés, en fait, ils ont vécu comme des esclaves en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça pue un esclave. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la réussite, il sent tout de suite s'il a affaire à un loser ou pas. Et s'il voit que c'est un loser, il va en profiter. Et ils ont traité ces gens, ces pauvres gens, d'une façon terrible, comme des esclaves. D'un autre côté, j'ai un ami qui est toujours plein d'enthousiasme. Il profite de chaque moment de la vie. Il a gagné avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Il a gagné l'argent nécessaire pour pouvoir vivre comme il aime. Mais depuis que je le connais, il a quand même vécu deux faillites. Vous voyez de qui je veux parler. Mais vous le voyez jamais pleurnicher. Pour lui, la vie, c'est une victoire permanente. Enfin, c'est comme ça qu'il nous le montre. Maintenant, je ne sais pas si dans son coin, il pleure tout seul, mais en tout cas, il ne montre pas. Pour lui, la vie, c'est une victoire permanente. Parce qu'il refuse de se limiter par les frustrations du passé. Eh bien, c'est ça l'exemple que j'aime. C'est ça l'exemple qui m'inspire. Mon frère, ma sœur, si tu as un passé dont tu n'es pas satisfait, oublie-le maintenant. Oublie-le maintenant. Imagine une nouvelle histoire pour ta vie. Imagine une nouvelle histoire pour ta vie et crois dans cette histoire. Concentre-toi seulement sur les moments où tu as réussi ce que tu désirais. Et cette force-là, elle va t'aider à obtenir ce que tu veux. Elle ne va pas te tirer vers le bas, elle va te tirer vers le haut. J'ai pensé à toutes ces choses et j'ai vu que dans ma vie, j'ai réussi beaucoup de choses. J'ai réussi beaucoup de choses. Depuis 1968, le Seigneur m'a appelé par une prophétie du pasteur Le Cossec à Metz. C'était pas en 68, c'était en 69, excusez-moi. À partir de là, les anges se sont mis à me parler. Il y a eu des guérisons, des miracles extraordinaires. Des milliers de personnes peuvent en témoigner, des conversions. On a créé des églises, on a monté des tas de choses extraordinaires. Mais j'ai trouvé souvent que les motifs de Dieu n'étaient pas justes. Alors excusez-moi, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que les motifs de Dieu n'étaient pas toujours selon mon entendement. C'est comme ça plutôt que je devrais le dire. Je ne dis pas que Dieu n'est pas juste. Je dis que je ne comprenais pas son système de justice. La mort de notre premier enfant. Pourquoi ? La trahison de plusieurs de nos amis. Et on en a eu des pelletés, hein. Les maladies dans ma propre famille. Bref. Alors, un jour, il n'y a pas longtemps, je me suis assis devant un fauteuil vide et j'ai dit à Dieu, assieds-toi là, j'ai à te parler. Alors, il y avait Michou qui était là, il y avait Stéphane, il y avait qui encore, il y avait Olivier, je ne sais pas qui il y avait encore, c'est tout, on était juste nous quatre. Et j'ai vidé mon cœur. Alors, dire exactement ce que j'ai dit, je ne peux pas vraiment vous le dire parce que c'est sorti comme ça, mais je vais vous dire, je vais vous résumer à peu près la pensée. Ce que j'ai dit à Dieu, c'était un peu dans le genre, je vais me rappeler les bonnes choses que tu as réalisées avec moi, elles vont me donner du courage. Ma vie, c'est une question d'attitude. Il y a des choses que tu, moi, m'as obligé à vivre et que je n'aime pas du tout. Alors, peu importe les raisons qui sont les tiennes, je ne ferai rien pour les éviter parce que ça ne sert à rien. On est foutu de toute façon. Tu fais toujours ce que tu veux. Désormais, je me libère. C'était pas à peu près ça ce que je disais ? C'était ça, n'est-ce pas ? Désormais, je me sens libre, prêt à faire ce que moi je veux. Quand je veux, où je veux. Parce que jusque-là, j'ai appris à accepter tes décisions, j'ai appris à respecter tes desseins, à les aimer, à les faire. Et ma fidélité a été récompensée par quoi ? Par l'abandon. Merci. Mon dévouement, ignoré. Mes efforts pour faire ta volonté ont abouti à quoi ? Tu as toute la force de l'univers. Tu peux détruire une cité, une nation comme moi je détruis une fourmi. Alors envoie le feu du ciel et mets fin à mes jours, sinon moi je vais faire ce que je veux. Alors tu me fous en l'air, sinon je fais ce que je veux. M'occupe plus de ce que tu veux, je fais faire ce que je veux, moi. Souviens-toi, moi je me souviens, hein. Souviens-toi comment tu as agi avec Moïse. Moi je me souviens comment tu as fait avec Moïse. Tu l'as appelé, tu ne demandais rien, hein. Tu l'as appelé, tu l'as contraint. Et après qu'il ait libéré et conduit le peuple élu dans le désert, un peuple, mon Dieu, quel peuple! Un peuple au cou raide, un peuple sans savoir vivre, un peuple d'arriérés, un peuple d'idiots, d'idiots! Après qu'il ait surmonté d'énormes difficultés avec ses crétins, tu l'as empêché, tu as empêché Moïse d'entrer dans le pays de Canaan. Ah, voilà comment tu as récompensé Moïse, ton serviteur, après sa longue et dure tâche. Tu ne lui as pas permis de mettre les pieds dans la terre que tu lui avais promise. Alors, il serait arrivé quoi si Moïse t'avait désobéi puis qu'il y était entré quand même? Seigneur, ma bataille, elle n'est pas contre les dissidents. Elle est entre toi et moi. Il y a des prophètes. Tu ne m'as pas averti de ce qui allait arriver. Tu ne m'as rien dit du tout. Tu m'as laissé, tu as regardé. Et tu as gagné. Tu as fait s'accomplir ta volonté. Parce que ce qui arrive, c'est ce que tu veux qui arrive. Hein. Il n'y a rien qui peut arriver sans que tu ne l'aies voulu. Tu as détruit le beau rêve que tu m'avais inspiré. Que tu m'avais donné avec ce château, tu l'as détruit. Moïse, résigné, il a accepté ta volonté et il n'a pas franchi le fleuve, voilà. Mais moi, je continuerai à vivre en communauté. Je continuerai à vivre en communauté. Alors tue-moi sur le champ, parce que si tu ne le fais pas, je reconstruirai cette communauté. Ce que tu as voulu faire disparaître, eh bien, j'irai contre ta décision. Puis je me suis tué. Michou était là, Olivier était là, Stéphane était là. Le silence est établi. Au bout d'un moment, bon. Mais en moi-même, je sentais que j'avais oublié quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Il y avait quelque chose qui... Je me disais, il y a quelque chose que je... Mais c'est quoi? Il y avait un élément capital qui luttait en moi pour revenir dans mon souvenir, mais je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Il me semblait juste que c'était une histoire ancienne, une vieille histoire. Finalement, Stéphane, Olivier sont allés se coucher. Bon, ben, bonne nuit. Dieu te bénisse, Michel, ça va aller. Michou est venu se coucher. Ils savent très bien que quand je suis comme ça, ils vont mieux rien me dire. Hein, parce que, à pas prendre avec des pincettes, là, j'entends. Et puis moi, je finis par m'endormir aussi. Je dis, bon. J'ai dit à Dieu qu'il a qu'à faire tomber le feu du ciel, ben, qu'il tombe dans la nuit où moi je dors. Et tout d'un coup, je me suis réveillé. Voilà l'histoire qui manquait. Voilà l'histoire qui me manquait. Au cours d'une nuit, quelqu'un a lutté avec Job jusqu'au lever du soleil. Jacob a accepté ce combat. À l'aube, Jacob n'était toujours pas vaincu. Et le combat a pris fin quand Dieu a accepté de le bénir. C'était Dieu qui luttait avec Jacob. Quelquefois, c'est nécessaire de lutter avec Dieu. Tout être humain, à un moment donné, voit une tragédie traverser sa vie. Ça peut être la destruction d'une ville, ça peut être la mort d'un enfant, ça peut être une maladie qui va te laisser invalide à jamais. À cet instant, Dieu le met au défi de l'affronter. Dieu te met au défi de répondre à sa question. Et sa question, c'est pourquoi est-ce que tu t'accroches autant à une existence si courte et si pleine de souffrances? Quel est le sens de ta lutte? Tu luttes contre quoi, là? Et pourquoi? Alors, il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a des hommes qui ne savent pas quoi répondre à cette question que Dieu leur pose. Et à celui qui cherche un sens à l'existence, quand on cherche un sens à l'existence et qu'on vit des trucs pareils, on se dit que Dieu a été injuste. Si on est intelligent et si on a un peu de courage. Si on est religieux, on dit « oh, puis on se résigne ». Et l'homme qui cherche un sens à sa vie, il se met à lutter avec Dieu et un feu descend du ciel, pas un feu qui tue, non, pas du tout. Un feu qui détruit les vieilles murailles. Un feu qui donne à cet homme ses véritables possibilités en brûlant tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est inutile. Alors, il y a les résignés, il y a les fatigués comme Moïse. Moïse, il a le bol, il était vieux, il en avait marre, il était résigné, il a dit, pouf, de toute façon, hein, pouf, que la volonté de Dieu soit faite, il était résigné. Et puis il y a les lâches, les lâches. Les lâches, ils ne laissent jamais cette flamme embraser leur cœur, ils ne luttent pas avec Dieu. Tout ce qu'ils désirent, eux, c'est que la situation reste ou devienne vite comme elle était avant, c'est-à-dire un petit loyer avec une petite famille, avec une petite prédication le dimanche, et puis un petit boulot bien répétitif. Hein? Ils veulent pouvoir continuer à vivre, à penser comme ils étaient accoutumés, comme ils avaient l'habitude. Voilà, ça, c'est les lâches. En revanche, les courageux, ils n'ont pas peur de foutre le feu à ce qui est vieux, à ce qui est dépassé. Même au prix d'une grande souffrance, ils abandonnent tout et ils vont de l'avant. D'abord, on a un chant qui dit ça. Il dit, par la foi, je m'en vais n'importe où. Vous vous rappelez de ce chant? On l'a chanté combien de fois? Eh bien, par la foi, je m'en vais n'importe où. Les courageux sont déterminés. Et le ciel, et du ciel, pardon, le Seigneur sourit de contentement. Ah! Parce que c'est ce qu'il veut, le Seigneur. Il veut que celui qu'il aime prenne en main les responsabilités de sa propre vie. Il en a marre de ces moutons bêlants. Il en a marre de ces lavettes qui font, ces bénis oui-oui qui vont poser leur derrière dans les églises et qui n'en foutent pas une. Et puis qui se plaignent alors qu'il y a tant de choses à faire. Finalement, le plus grand cadeau que Dieu nous ait fait, c'est la capacité de choisir et de décider de nos actes. Non ? Bien sûr que c'est vrai. Je vous le dis, mes frères et sœurs, seuls les hommes et les femmes qui ont le feu sacré ont le courage d'affronter Dieu comme Jacob l'a fait. Seuls ceux-là connaissent la voie du retour vers son amour. Parce qu'il y a des moments, on dit, mais c'est pas juste, donc l'amour s'effrite. Mais quand on ose se mettre à lutter avec Dieu, on lui dit, bénis-moi ! Parce qu'on reconnaît que c'est tout par amour. Tout ce qui est arrivé, c'est par amour. Pourquoi ? Parce qu'une telle personne, elle comprend enfin que la tragédie, ce n'était pas une punition. Moi, j'ai cru pendant un temps que c'était une punition. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cru que c'était une punition. Ou un abandon, que Dieu m'avait abandonné. Et j'ai enfin compris que non, ce n'était pas ça. C'était un défi de Dieu lui-même, un défi. Alors, j'ai revu chacun de mes pas. Vous savez, comme quand on réfléchit, qu'on médite à sa propre vie, depuis que j'avais quitté la Suisse pour venir servir Dieu dans ce pauvre pays de France, j'avais accepté cette mission sans discuter. Je savais que c'était bien, puisque c'était servir Dieu. Mais je n'avais jamais eu l'occasion de regarder ce qui aurait pu se passer sur les chemins que je m'étais refusé de suivre, par peur de perdre ma foi ou par peur de perdre ma volonté. Il a fallu que Dieu m'oblige à rentrer avec Jeunesse en Mission, et une challenge pour que je voie qu'il y avait d'autres choses que les pentecôtistes. Moi, je ne faisais que de suivre. J'avais toujours considéré que c'était très risqué de prendre aussi le chemin des gens ordinaires. Je ne voulais pas faire quelque chose d'ordinaire. Donc tout ce que je trouvais d'extraordinaire à faire, je le faisais dans la Bible. J'avais peur de m'habituer à l'ordinaire et d'aimer la routine, d'aimer la vie comme monsieur, madame, tout le monde. C'est pourquoi j'entreprenais, je faisais des tas de trucs. Mais je n'avais pas compris que depuis quelque temps, j'étais devenu accoutumé à ma vie spéciale et à ma vie miracle. J'étais devenu un habitué, un accoutumé. Et en cela, au bout de 48 ans de vie miracle, au bout de près de 40 ans de vie communautaire, dont 26 dans un château, j'étais devenu un homme pour qui ce qui semblait difficile aux autres était simple pour moi. Je ne faisais rien d'extraordinaire. J'étais devenu tellement convaincu de savoir ce que Dieu voulait, c'était tellement un absolu, que je me comportais de la même manière que ceux qui n'avaient jamais pris de décisions importantes dans leur vie. Pour moi, ce n'était pas difficile. Vous avez des pasteurs, quand ils voient que c'est le moment d'aller prier pour les malades, ils ont la trouille. Moi, je me réjouis d'aller prier pour les malades parce que je suis tellement sûr que Dieu va les guérir. Quand les gens viennent me dire « Oh, ça va être difficile de vivre en communauté », je me dis « Mais ce qu'ils sont bêtes, c'est leur vie qui est difficile, c'est pas la vie en communauté qui est difficile, c'est leur vie qui est difficile. » Vous voyez, pour moi, c'est une facile, c'était tout baigné dans l'huile. J'en étais arrivé à avoir une totale confiance en Dieu et une totale confiance dans tous mes frères et sœurs de la communauté, dans tous. Rich y compris. Mais lui, même en premier, c'était le plus gentil de tous. J'avais réussi à échapper au doute, j'avais réussi à échapper à la défaite, j'avais réussi à échapper au moment d'indécision. Mais comme Dieu est généreux, il m'a conduit dans l'abîme de l'inévitable. Et il a bien fait. Il l'a fait pour me révéler que l'homme a besoin de choisir et non pas d'accepter son destin. J'avais oublié de choisir. J'étais installé. Tout allait bien, tout baignait. Je faisais mes 2-3 missions en Afrique. J'écrivais mes bouquins. C'était super. J'avais une vie cool, bien. Et il y a des millénaires, par une nuit semblable à celle-ci, où je venais de parler à Dieu en lui disant « Assieds-toi sur ce fauteuil, je vais te parler. » Jacob n'avait pas laissé Dieu partir avant qu'il ne l'ait béni. Et c'est alors que Dieu lui a demandé une chose bizarre. Alors, on ne se rappelle pas toujours de ça, mais ça m'a choqué quand j'ai relu le texte, parce que j'ai dit « C'est ça qui manque à mon histoire. » C'est ça que ce truc qui me laissait comme une espèce de malaise. Je vous lis le passage. C'est dans Genèse 32, verset 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » C'est l'homme qui dit ça, la personne qui se bat avec Jacob. Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Et il demanda, « Quel est ton nom ?» C'est l'homme qui a demandé à Jacob, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Il avait lutté avec Dieu cette nuit-là. Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Comment t'appelles-tu? Dieu lui a demandé, « Comment t'appelles-tu » Comme s'il ne savait pas comment Jacob s'appelait. C'est ça l'important, mes frères et sœurs. Avoir un nom. Une fois que Jacob lui a répondu, « Je m'appelle Jacob », il lui a changé son nom, il l'appelait Israël. Nous avons tous un nom depuis notre naissance. Moi, au début, je n'aimais pas mon nom parce que je disais que c'est un nom qui va aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La preuve, c'est que j'ai épousé une femme qui porte le même prénom que moi, Michel. Et puis, quand j'ai appris ce que ça voulait dire, j'ai trouvé que c'était génial. Donc, je suis content de m'appeler Michel. Mais tu dois apprendre à immerger ta vie dans un nom que Dieu va te donner et que tu vas retrouver au ciel, écrit sur un caillou blanc, Apocalypse 2, 17, vous direz ça. Quel est ce... Bon, on va le lire. Quel est ce nom nouveau? C'est celui de Dieu. Alors, on va lire Apocalypse 3, 12. Apocalypse 3, 12. Écoutez bien. Non, tu peux le suivre, Robert, ça va aller. Merci, c'est gentil. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, tu vas recevoir un nom nouveau, puis tu vas recevoir encore tout ça. Ça veut dire quoi? J'écrirai sur celui qui vaincra. Donc, déjà, tu as ton caillou avec ton nom à toi. Mais sur ta vie, Dieu va écrire le nom de Dieu, un nom imprononçable, les Juifs ne savent pas, personne ne sait le nom de Dieu. Le nom de la ville de mon Dieu, c'est-à-dire de la Nouvelle Jérusalem, et mon nom nouveau, le Fils, va avoir un nom nouveau. Le caillou blanc, chez les Grecs, quand on regarde dans l'histoire, parce que c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est dans l'histoire, Un caillou blanc, chez les Grecs, c'était le symbole de l'acquittement dans un tribunal. On te donnait un caillou blanc, ça veut dire que tu étais acquitté. C'était un caillou noir, c'était la condamnation. Et j'ai remarqué que la manne dont il est question dans la Bible, c'est une manne cachée. Je donnerais la manne cachée, c'est-à-dire une manne apocryphe. Apocryphe, ça signifie tenue cachée. Et le caillou blanc, il est secret, il n'y a que toi et Dieu qui connaît le nom. Alors déjà, nous avons accès à cette manne cachée, les pierres cachées de la vision de Jackson Junior, et Dieu est sur le point de nous donner toute la manne cachée dans l'évangile rétabli, le livre de Mormon, et son nom, c'est-à-dire que nous serons son épouse. Quand quelqu'un prend le nom de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il l'épouse. Mais aussi le nom de la Nouvelle Jérusalem et le nom nouveau du Fils. Le Seigneur, mes frères et sœurs, est à l'œuvre en nous, mais cette œuvre, elle est cachée. Cette œuvre, elle est secrète. Personne ne la voit. Il y en a qui peuvent la voir, mais ils l'interprètent à leur façon. Ils l'interprètent, là, ceux qui ne nous aiment pas. Ils interprètent notre vie à leur façon. Ils ne savent pas ce qui se passe réellement. L'œuvre de Dieu en nous et par nous est secrète. Celui qui cherche à faire une œuvre qui n'est pas secrète passera à côté de son nom nouveau, de sa nouvelle identité. Pensez-y, mes frères et sœurs, le caillou, un rocher, c'est d'un caillou que lui, il est sorti, Deutéronome 32, 13. Dieu change les cailloux en source d'eau, psaume 114, 8. Et il rendra, il veut que nous rendions notre visage semblable à un caillou, Ésaïe 50, verset 7, c'est-à-dire dur pour que l'ennemi se brise dessus. Et c'est un caillou, une pierre, qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui a renversé tous les pouvoirs humains. Un caillou. Par notre fidélité avec la manne révélée dans la Bible, par notre fidélité à la manne cachée dans les écrits de Qumran, que nous avons reçue, que nous avons cru, par la manne cachée que nous avons reçue dans le livre de Mormon, ces pierres sur lesquelles le soleil n'avait pas brillé dans les nations, c'est par notre fidélité à la parole vivante, c'est-à-dire à Jésus, c'est par notre fidélité à Jésus, la manne cachée étant une nourriture pour notre esprit, Jésus est une nourriture, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, par notre fidélité à Jésus, nous serons rendus dignes de recevoir ce caillou blanc, le caillou de l'huile, le caillou de l'eau et le caillou de l'invincibilité. D'après les textes que je viens de vous donner tout à l'heure, un caillou porteur de notre identité acquise dans notre condition mortelle. Le nom de notre personnalité intime devant et en Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. Ce caillou avec ce nom, c'est un cadeau donné par celui qui a l'autorité pour le donner. Nos parents avaient l'autorité de nous donner le nom charnel que nous avons, le nom terrestre, mais Dieu va nous donner un nouveau nom qui représente notre identité. C'est l'attribution d'une dignité, ce nouveau nom. C'est l'attribution, c'est l'approbation secrète de Dieu. Ce caillou existe quelque part dans les cieux. Il va vous être donné. Si vous en êtes digne. Il l'a mis dans notre main avec le privilège de jouir seul de la révélation que comporte le nom qui lui est attaché. Vous voyez, mes frères et sœurs, vous avez trois mois. Le moi que vous pensez être, le moi que les autres croient que vous êtes et le moi que Dieu sait que vous êtes. Lequel vous voulez ? Jacob, ça signifie trompeur, ça signifie supplanteur. En français courant du 21e siècle, ça signifie youpin. Alors que Israël signifie le prince de Dieu. Dieu a changé l'identité de ce youpin en prince de Dieu, en Israël. Mais il y a des youpins qui n'ont encore pas changé. Et il y a des chrétiens qui n'ont encore pas changé non plus. Et il y a des chrétiens qui ont changé un petit peu, mais qui ont besoin de changer encore. Quel est votre nom ? C'est celui que Dieu connaît. Est-ce que vous connaissez le nom que Dieu connaît ? Pour le recevoir, il faut en être digne. Jacob, a dû se battre avec Dieu, en arriver jusque-là. Il n'a pas seulement obéi comme un mouton. Certains Jacob, certains supplanteurs, certains trompeurs d'aujourd'hui n'ont même pas voulu obéir. Jacob, non seulement il a obéi, mais en plus il s'est battu. Mais ces youpins, ils ne se battent même pas. Ces supplanteurs, ils sont là, simplement ils râlent, ils rouspètent, ils contestent, gna 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 gna. Puis c'est que des paroles, il n'y a rien de miraculeux dedans. Il n'y a rien de viril là-dedans. Jacob avait lutté avec Dieu et il a gagné, mais vous vous rendez compte? Parce que Dieu est infini dans sa miséricorde, mais écoutez-moi bien, il est implacable dans sa rigueur à l'égard de ceux qui n'ont pas le courage de l'affronter et d'oser. Mes frères et sœurs, quand j'ai dit à Dieu, assieds-toi là, j'ai quelque chose à te dire, il faut que je te parle, c'était pas par manque de respect envers Dieu. C'était l'époque de la fin de la peur. C'était l'époque de la fin de l'attente. Il ne restait que la reconstruction ou la défaite. Et j'ai relevé le défi et j'ai dit à Dieu, ben non, vas-y, tue-moi si tu veux, je m'en fous. De toute façon, maintenant, je fais ce que je veux. Puisque tu dis rien, ben je fais ce que je veux. Tu dis rien. Et c'est là que l'ange a commencé à reparler de nouveau. Non pas. J'ai découvert que je suis sur mon chemin parce que je le désire. Et non pas parce que ça m'a été imposé par Rachid Bouchami qui m'a envoyé à Jeunesse en Mission et à Teen Challenge. Ça, mon destin, mon chemin n'est pas quelque chose qui m'est imposé par Ritchie et par Mesme. Non ! Pas du tout. Je dirais même, c'est même pas Dieu. C'est moi qui choisis mon destin. Vous allez dire, Michel, il est un peu dingo ce matin. Non, 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 non. Genèse 32, 25, 30. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui. Ah, Dieu n'est pas vainqueur contre Jacob. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Et il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, supplanteur. Tu seras appelé Israël, prince de Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as gagné, tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Il y a l'autre version où c'est écrit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alors maintenant que j'ai lutté comme ça, eh bien, je peux offrir à Dieu toute la force de ma volonté volontairement et non la résignation amère d'un rebelle et non la lâcheté de celui qui n'a pas osé choisir un chemin différent mais qui veut simplement vivre un petit train-train bien minable sans risque. Mon défi à Dieu, en vérité, ce n'était pas un manque de respect, c'était un moment de grande intimité avec Dieu, un corps à corps. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous offrir le luxe d'être trop jeune ou d'être trop vieux. Nous avons besoin de la jeunesse que vous aviez jadis, si vous dites « je suis trop vieux ». Nous avons besoin de la jeunesse que vous aviez jadis. Et que vous avez perdu dans le confort du château. J'avais perdu. Certains disent, nous ne savons pas où trouver notre jeunesse, elle a disparu dans nos désillusions. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. La vérité, c'est que vous qui parlez de votre désillusion, vous n'avez jamais eu même d'illusion. Vous êtes simplement laissé faire, vous êtes laissé porter, vous avez suivi. Il faut que vous écoutiez les anges. Vous avez la prêtrise d'Aaron, maintenant vous pouvez bénéficier du ministère des anges. C'est parce que vous n'aviez pas d'illusion, c'est parce que vous n'aviez pas de grands rêves que votre jeunesse, la jeunesse de votre cœur s'est endormie. Certains des résignés et des lâches diraient, mais comment est-ce que je peux réaliser quelque chose d'impossible? Ben, voilà une question qu'elle est bonne. Dieu m'a dit que des milliers de personnes allaient se convertir, venir se convertir au portail. Moi, je ne crois pas à cette vision. Je m'en vais. Racheter le château? Ah ben non, c'est pas possible, ça coûte trop cher. Les résignés, les lâches, qui vivent leur truc, bien minable. Ma réponse, si vous me posez la question, mais comment réaliser quelque chose d'impossible? Je vous réponds, comment? Ben avec enthousiasme, c'est tout. Avec enthousiasme, enthousiasmez-vous. Avec enthousiasme, que vos yeux s'allument, que vos conversations négatives cessent. Vous avez devant vous une mission importante, vous êtes nécessaire. On n'a même pas le choix. Si on ne le fait pas, ça voudrait dire qu'on renonce à la seule chance que nous a offerte cette tragédie. Ça voudrait dire qu'on est des idiots. Ça voudrait dire qu'on est les pires chrétiens crétins. Il n'y a pas que les lapins qui sont crétins, hein. Alors c'est vrai, on ne peut pas éteindre dans notre cœur la douleur de la perte de ceux qui étaient comme les Mesmes, les Ruiz et les Volkov, nos amis, pendant des 30 ans. C'est difficile de ne pas éteindre cette douleur, ni la perte de ce beau château dans lequel nous avons vécu 26 ans et qui a vu naître nos enfants, mais nous pouvons nous réjouir d'avoir gagné quelque chose. Moi, je pensais que nous avions trouvé une réponse, une solution dans nos âmes, et que nous ne pouvions plus accepter le moindre changement, que tout était accompli, que c'était bien, et il n'y avait plus qu'une chose à attendre, c'était le retour de Jésus. Oh là 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 là, mais qui c'est qui m'a foutu une idée pareille dans la tête? Pierre Gilbert, tais-toi, au nom de Jésus! Il y a d'autres choses à vivre que d'attendre le retour de Jésus et de lire les prophéties qui parlent de ça. Il y a des gens à gagner, il y a des âmes à sauver, il y a des malades à guérir, il y a des morts à ressusciter. Jésus nous appelle à être des soldats dans son royaume. Et un guerrier, il est toujours conscient du motif pour lequel ça vaut la peine de lutter et non pas d'attendre des bras croisés, comme dit Johnny Hallyday. Un guerrier n'entreprend pas un combat qui est dénué d'intérêt. Un guerrier ne perd pas son temps dans des provocations de bouts de ficelle, de fourchettes et de salières. Il s'en fout de tout ça. Un guerrier, il accepte la défaite, s'il y a la défaite, et il ne traite pas la défaite comme un événement qui n'a pas d'importance, et il ne tente pas de transformer la défaite en victoire, comme tous les politiciens qui perdent aux élections, puis qui disent « oui, mais c'est extraordinaire, etc., etc., on était les meilleurs, ils ont perdu, ben, qui, du balai ceux qui ont perdu !» Non, un guerrier qui a perdu, il a la douleur de la perte, et la douleur de la perte, ça le rend amer, et ensuite il souffre de la froideur, il souffre de la solitude qui le désespère, mais une fois qu'il est passé par tout cela, il pense ses blessures et il prend un nouveau départ. Les tragédies surviennent toujours. Nous ne pouvons pas toujours en découvrir la raison. Et nous ne pouvons pas toujours rendre les autres coupables. Arrêtons de dire que c'est Ritchie et les Messes. Mais non, ce n'est pas eux. C'est Dieu qui l'a voulu pour nous aider à sortir de ce train-train routinier de vide château que nous menions là depuis tant d'années et qui était tellement confortable. Voilà, c'est tout. C'est dit. C'était une lutte, c'était un combat au début, mais ça n'était plus une lutte, c'était plus facile. Ça ne sert à rien de s'imaginer comment ça aurait pu être sans cette tragédie. Ça ne sert à rien de le s'imaginer. On s'en fout. Rien de tout cela n'a d'importance. La tragédie est arrivée. Point. Et on me donne un amen. 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 Maintenant, oublions ce passé et courons vers l'avenir. Trouvez votre nom nouveau. Trouvez votre nom sacré qui synthétise tout ce pourquoi vous vous êtes battu contre les hommes et contre Dieu. Plutôt pas contre, plutôt avec. Moi, j'ai trouvé mon nom secret. Annoncez votre nouvelle identité, pas en disant « voilà, je m'appelle Prince de Dieu, Victoire ou je sais quoi ». Annoncez votre nouvelle identité par des actes d'amour, de foi et d'espérance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je témoigne que ces choses sont vraies. Amen. Merci Seigneur de nous aider à les comprendre vraiment et à les vivre. Que, comme dit l'apôtre Paul dans Corinthiens, soyez des hommes. Soyez virils et allez-y, foncez, nous voulons faire ta volonté. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous l'inspire par le ministère d'ange et par le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans le pays que tu nous as promis là-bas et toutes les choses que tu es en train de préparer. Et nous voyons que ton approbation est sur nous, sur notre vie. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci Jésus. Sois béni mon Dieu d'aider toute personne qui écoute ce message sur Internet et qui a des difficultés avec son église ou dans son couple ou dans sa famille ou au travail ou peu importe où, mais aide-les à comprendre qu'il ne faut pas subir. Il faut arrêter de toujours être là en train de se résigner ou en train d'être amer. Il faut oser élever sa voix, élever son cœur, élever son intelligence. Aide chacun, chacune. Je te le demande, Père, dans le nom béni de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Nous allons chanter quelques cantiques et puis nous allons louer le Seigneur. À bientôt. Au revoir.